Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscule, backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui donc, quatrième et dernier épisode de l'entretien avec le superviseur des effets visuels Cédric Fayol, au micro de Margot Delpierre, sur un montage et un mixage de Thomas Langlin.
Quelle technique vous n'avez pas encore utilisée et vous fascine? Est-ce que celle-là en fait partie ou est-ce qu'il y en a d'autres?
De mon parcours, je suis pas le plus technique de tous les superviseurs. Je sais pas. En fait, je vais m'intéresser à une technique parce qu'elle va me servir pour un projet. Je vais pas dire, ah, tiens, ça c'est super. Ah, le motion control, enfin, le.
Capture?
Le motion capture. Voilà, ça c'est rigolo. Je me dis ça, j'aimerais bien essayer une fois, voir ce que ça donne. Mais en même temps, je m'y intéresserai le jour où j'ai un projet qui nécessitera de faire de la motion capture. Mais, donc j'ai forcément un œil dessus. Mais sans plus, je fais pas passer la technique avant le sujet. Et donc je suis vraiment à la vitesse des scénarios que je lis. Je n'essaie pas d'aller plus vite que ça.
Est-ce que dans vos films préférés, il y a un effet visuel qui vous a bluffé? Vous vous êtes dit j'aurais adoré le y penser ou le faire moi-même parce que c'est beau, parce que c'est complexe?
Non. Moi je suis pas film à effets spéciaux. Je regarde pas tous ces films-là. Ça m'intéresse pas. J'en regarde certains parce que je sais qu'il faut que je les regarde. Et souvent, c'est plus avec une conscience professionnelle.
Pour être à la page.
Exactement. Mais moi, quand je vois, mes références sont absolument pas là. Elles sont vraiment pas là.
C'est quoi vos références alors?
Si je parle de la dernière claque que j'ai pris au cinéma, c'est Drunk de Thomas Vinterberg. C'est, pour moi, c'est ce cinéma-là qui me parle. Et je préfère faire des petits effets sur Drunk que d'aller faire un Star Wars, par exemple. Pour moi, c'est ma réussite, elle serait plus d'aller travailler avec Thomas Vinterberg. Mais c'est personnel, hein. Et là, je le vois, c'est marrant, c'est en train de monter très fort, hein. C'est un discours qu'on a où on entend, ouais, mais ça serait bien qu'on ait des films bio.
Bio.
Sans effets spéciaux. Non, mais c'est un truc que j'entends de plus en plus. Il faudrait un label bio pour dire il n'y a pas d'effets spéciaux dans ces films. Mais en fait, c'est une conséquence d'une overdose chez les spectateurs d'effets spéciaux. Et que je comprends, en fait, parce que ça a été depuis 20 ans, c'est utilisé à outrance.
Surtout aux États-Unis.
Surtout aux États-Unis, ouais. Et effectivement, d'un seul coup, quand vous vous retrouvez avec un film sans effets spéciaux, vous avez une sensation de vrai cinéma. Chez les cinéphiles, hein. Et même sur les films de grands spectacles, où il y a, aujourd'hui, vous avez des films de grands spectacles comme Mission Impossible. En fait, ils axent le truc en disant, Tom Cruise a fait ses cascades. Comme quoi, c'est pas des effets spéciaux. Donc effectivement, je pense qu'on a utilisé des effets spéciaux un peu trop. Il y a une sorte d'overdose chez le public. C'est pour ça que je préférerais travailler avec un réalisateur qui a 10 plans à faire et l'aider à raconter son histoire plutôt que tout faire en trucage.
Et vous comprenez ça, ce besoin d'authenticité chez les cinéphiles, chez certains spectateurs?
C'est marrant parce que c'est un sentiment ambivalent, mais par exemple là sur Adieu les cons, on a tout tourné et c'est génial. Moi j'ai vécu professionnellement et même artistiquement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais je sais que si je montre ça aux gens, il va y avoir une déception en disant tout était faux. C'est fou, hein. Alors qu'on sait que le cinéma c'est faux. Encore une fois, alors on sait que les acteurs c'est des acteurs. On sait que les décors sont faux. Mais cette surcouche là, en fait, il y a une sorte de désillusion chez les gens. Donc en fait, on communique pas beaucoup là-dessus parce que c'est pas grave. On est des métiers de l'ombre, et c'est bien aussi des fois de le rester parce qu'avant tout, c'est le projet qui doit fonctionner. Mais quand vous voyez, par exemple, quand moi je vois 1917 qui est censé être un plan séquence, j'ai pas été bluffé. Par exemple, j'ai pas trouvé ça dingue. Qu'est-ce qui est pas dingue en fait? Si, techniquement, c'est super. Franchement, moi qui travaille dans les effets, il y a plein de trucs qui ont été... Pas tout, c'est bluffant, techniquement. Mais après, l'histoire, moi... En faux plan séquence, je préfère Birdman. Birdman, c'est un faux plan séquence et c'est magistralement fait. Le scénario, il est tenu, il est haletant, il y a une façon de faire un plan séquence en se servant du... Il raconte sur plusieurs mois, enfin, il passe du jour à la nuit, tout ça en plan séquence. Ça, c'est brillant. Mais qu'est-ce qui est brillant? C'est pas le fait d'avoir fait un faux plan séquence, c'est d'avoir écrit un scénario brillant. C'est pour ça que les effets spéciaux sont pas forcément la réponse à tout, tout le temps.
Il faut pas en oublier l'émotion, en fait.
Il faut pas en oublier l'émotion, il faut pas oublier raconter une histoire, et il faut pas se perdre dans la technique. Il y a beaucoup de films qui se sont perdus dans la technique. Quand vous prenez, par exemple, un qui manie très bien, moi je trouve le truc, c'est Spielberg. Spielberg reste un cinéma d'auteur. Il met des effets spéciaux partout dans son film, mais il s'en sert d'une façon brillante. On les voit pas, on s'en fout, parce que son histoire, elle est super et ça suffit. Voilà, il faut pas oublier que ce n'est que des métiers techniques et qu'en fait, ce qu'on fait n'est qu'une partie du film et qui doit être au service du projet et au service du film. Et quand il prend le dessus, en 1917, je n'ai entendu quasiment que sur ça, que sur le fait que ça soit un plan séquence. Déjà, on sait que ça n'en est pas un, parce que on sait que c'est un faux, c'est pas la soif du mal non plus de, voilà. Ou même, je suis plus bluffé par l'accord d'Hitchcock qui est un plan séquence avec des artifices toutes les 20 minutes pour changer de bobine, mais je suis plus bluffé par ça que par 1917. Et 1917, ils n'ont communiqué que sur ça. En fait, on devrait pas communiquer que sur ça. Il y a un moment, le scénario doit toujours, la technique ne doit pas prendre, dès que ça prend le dessus sur l'histoire ou quoi que ce soit, ou sur l'interprétation, bah, on n'est plus dans du cinéma, on n'est plus dans, en tout cas, dans ce que j'aime moi.
L'essentiel, c'est l'histoire.
Complète, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc, quand on parle de la technologie qui évolue, de ce qu'on découvre aussi grâce aux jeux vidéo, etc., on se dit que peut-être c'est sans limite et qu'on peut tout faire autrement. Ça vous plaît pas forcément?
Si. En fait, le truc, c'est que la technologie, elle doit être au service des artistes. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, on parlait des écrans LED, c'est super. Maintenant, une fois qu'on a compris ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire, etc., moi, mon idée, enfin, mon envie, en tout cas, c'est de montrer ça à un réalisateur et qu'il se l'approprie. Et à partir de là, lui, il va trouver des idées de comment s'en servir. C'est ça qui est bien. C'est pas à nous de lui expliquer comment on doit se servir de cet outil. C'est ce que j'aime bien, moi, avec, justement, avec Albert Dupontel. C'est-à-dire que Albert Dupontel a très bien compris les effets et il a très bien compris à quoi ça lui servait dans sa narration, là où ça pouvait l'avantager dans sa fabrication et dans sa production. Mais il fait jamais passer ça devant. Jamais, 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 jamais. C'est un outil qui lui permet de raconter son histoire, voilà. Et donc nous, avec ces nouvelles technologies, l'idée c'est de dire, voilà, vous avez des nouveaux jouets. Maintenant, c'est pas à nous de vous expliquer comment ils marchent. Maintenant, utilisez-les. Et c'est marrant parce que moi, vraiment au début des effets spéciaux, quand je faisais les rencontres avec les réalisateurs français en disant, ah, les effets spéciaux, c'est pas pour nous, c'est pour les Américains, machin truc, etc. Puis jusqu'au moment où ils en ont eu un peu besoin, donc il y avait un ou deux plans truqués dans le film, on a commencé comme ça, hein. Puis en fait, ils ont fait « Ah ouais, mais c'est vachement bien !» En fait, « Ah ouais, quand même, vous pouvez faire ça !» Et d'un seul coup, on voyait dans le scénario d'après, où ils disent « Ah, mais en fait, comme on sait que tu peux le faire, en fait, ça va nous aider. » Et donc, l'idée, c'est qu'ils s'approprient nos technologies.
Micros a remporté plusieurs trophées, César et Technique, c'est le nom de la récompense attribuée par l'Académie. Mais ces récompenses, elles sont remises pendant une cérémonie qui est distincte de la fameuse cérémonie des Césars. Ça veut dire que la reconnaissance, elle n'est pas entière? Quand on voit le travail que vous faites, particulièrement sur Au revoir là-haut, parce que c'est typique.
C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Hein. Après, on espère qu'avec la refonte là de l'Assemblée générale des Césars, il va y avoir des nouvelles discussions. Mais il y a tout un pan de la fabrication d'un film qui est oublié. Alors, on n'est pas les seuls. Hein. Il y en a plein. Hein. Les cascadeurs demandent aussi. Il y a plein de gens. Mais c'est vrai que les effets visuels aujourd'hui prennent une place tellement importante sur certains films, hein, voilà, et qui sont une plus-value au projet. Et par exemple, quand on prend De Rouillé d'Os, je reviens sur De Rouillé d'Os, mais De Rouillé d'Os, j'ai été nommé à Los Angeles pour ce film-là, dans une remise de prix de l'Union des effets spéciaux, mais à Los Angeles, c'est-à-dire que vous êtes reconnu à l'étranger pour votre travail, mais pas en France. Et c'est très particulier, c'est comme si on voulait cacher ce truc-là, et c'est dommage, parce qu'il y a certains films qui mériteraient de communiquer, malgré tout, sur le savoir-faire français. Hein. Dans les sociétés... Dans le monde entier, il y a un nombre de Français, vous pouvez pas savoir. Ce qui est dingue. Chez ILM, Weta, ou Dineg, ou, enfin bref, toutes les boîtes, elles ont des Français qui s'exportent pour leur savoir-faire. Donc c'est dommage quand...
Dans beaucoup de branches du cinéma d'ailleurs, parce qu'on a fait d'autres épisodes de backstage avec d'autres métiers de l'ombre du cinéma, et à chaque fois, on peut parler des monteurs notamment, mais il y a un savoir-faire français chez les cascadeurs aussi.
Et bien sûr, mais même on a des monteurs-monteuses français qui travaillent pour les Américains. On a des chefs décorateurs qui travaillent pour les Américains. La France, l'Europe. Enfin, c'était fou sur les Frères Sisters par exemple, qu'on a tourné entièrement en Europe. On a fait un film américain qu'avaient des techniciens européens. C'est-à-dire qu'on avait les Italiens aux costumes et maquillage. On avait une équipe espagnole. On avait des Roumains. On avait des Anglais. Enfin, c'était super. C'était incroyable de se dire qu'on a une puissance de fabrication en Europe et un savoir-faire qui est quand même dingue. Genre, quand vous prenez les Italiens, c'est quand même. Enfin, bref, on a un savoir-faire en Europe et on joue comme des outsiders. C'est très étrange.
Est-ce qu'il y a un film français ou étranger sur lequel vous auriez aimé travailler ? Un film où peut-être vous vous êtes dit comment ils ont fait alors que vous-même vous êtes du métier ?
Oh, ah oui, il y en a eu plein. Ah, là, dans les récents, j'ai pas. Alors, c'est très marrant parce que j'ai pas d'exemple précis là, mais il y a plein de films où je me dis waouh, on joue pas dans la même catégorie parce que c'est quand même impressionnant. Et puis, une fois qu'on s'est dit ça, bah après, on a la chance avec le net et tout ça et la communication de voir un petit peu comment ils ont fait. Et puis en fait, on s'aperçoit que ils ont fait comme nous. C'est juste qu'ils ont plus de moyens et ça, mais c'est les mêmes méthodes. Au bout d'un moment, on se dit ah, bah, c'est rassurant. En fait, on sait faire. Et de moins en moins, il y a des trucs où je me dis on sait pas faire. Mais oui, après, il y a plein de réalisateurs avec qui j'aimerais bien travailler et surtout voir travailler. C'est surtout ça.
Est-ce que vous pensez que ce que vous faites n'est pas que technique, c'est-à-dire est-ce que vous avez conscience que ce que vous faites, c'est de l'art?
Oui, c'est comme tous les techniciens, enfin, comme un chef opérateur ou, c'est-à-dire que nous, on fait de la technique. Après, c'est ce que je dis souvent, on dit c'est fait par ordinateur, mais l'ordinateur, il fait rien. Hein. L'ordinateur, il calcule. Mais si vous avez pas puis moi, je fais que la supervision, hein. C'est-à-dire que les vrais artistes, s'il y en a, c'est les graphistes avec qui je travaille, que je sélectionne pour chaque film. Limite, c'est un casting pour chaque film, même si on a des gens avec qui on travaille de façon régulière. Mais c'est eux, les artistes, ouais, c'est des gens qui passent 8 heures derrière leur écran à faire des propositions, qui ont un œil, qui ont du goût, qui ont un sens de l'image, qui ont un sens artistique profond. Et donc, oui, eux, c'est des vrais artistes, complètement.
Vous les considérez comme artistes ?
Ah bah oui.
Est-ce que eux se considèrent comme des artistes ?
Bah, certains le sont en dehors de ce qu'ils font pour le travail. Il y en a qui peignent, il y en a qui font de la photo. Il y a des artistes, mais comme dans tous les métiers du cinéma. Tous les métiers du cinéma, vous prenez un chef d'éco, c'est un artiste. C'est un métier artistique, donc forcément c'est technico-artistique. Donc s'ils n'ont pas les bases techniques, ils n'arriveront pas à être au meilleur de leur art. Mais en tout cas, oui, il y a des propositions artistiques qui sont dingues. Après, moi, je suis un arbitre là-dedans. J'ai dit, bah, ça, ta proposition artistique, elle est super, mais pas pour ce film-là. Voilà. Donc, moi, je suis juste un arbitre.
En tout cas, c'est des gens hyper curieux et très créatifs.
Complètement. Ouais, c'est des vrais créatifs, ouais.
À part des graphistes, vous avez quel autre type de professionnel dans votre équipe, par exemple?
Après, on travaille aussi avec ce qu'on appelle des producteurs VFX. C'est-à-dire, c'est des gens qui nous accompagnent dans l'organisation on est dans l'art, mais on est quand même sur des budgets qui peuvent être assez des fois conséquents. Donc, effectivement, on a une partie production où il faut tenir un budget, il faut monter une équipe, il faut gérer des plannings, il y a tout un travail d'organisation. Donc, en général, c'est un binôme de supervision pour la partie technico-artistique et production pour la partie budget, organisation. Voilà. Et donc ça, c'est on a toujours un producteur VFX associé qui travaille et qui tient à la lettre au mieux possible les budgets pour qu'on puisse fabriquer en temps et en heure.
Vous comptez faire ce métier jusqu'à quand ?
Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Pour l'instant, moi, je suis moi-même épaté de pas être lassé par ce travail-là. Après, il évolue. On prend des films plus gros, on a plus de confiance, donc je sais pas encore, on verra. Après, c'est un métier nouveau, il n'y a pas encore de retraités dans les superviseurs d'effets spéciaux. Bah, j'en suis loin, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de recul. Les plus anciens que moi, ils ont quoi, 5-6 ans plus à peine. On ne sait pas en fait qu'est-ce que peut devenir un superviseur quand il a 55 balais, 60 ans. On ne sait pas. Est-ce que j'aurai toujours la confiance des réalisateurs où il dira, bon, il est un peu vieux lui maintenant pour. Pour faire ça, j'ai envie de parler à un plus jeune. On ne sait pas. C'est des métiers nouveaux, donc c'est très étrange en fait. Voilà. Donc après, moi, aujourd'hui, je suis plus dans une transmission du savoir. Je vois des jeunes arriver avec une envie de superviser, machin, ce qui est normal. Hein. Et c'est vrai que moi, quand je peux, j'essaie de les accompagner sur les plateaux, de leur montrer, de leur expliquer comment on fait de la supervision, parce que ouais, c'est la relève. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, je m'occuperai d'eux.
En attendant, vous êtes toujours là.
Ouais, pour l'instant, je suis toujours là.
Merci Cédric Fayolle.
Bah, avec plaisir.
Merci à Cédric Fayolle pour cet entretien enregistré chez Microsimage, là où la magie opère. Cet épisode a été monté et mixé par Thomas Langlin, qui lui aussi est un peu magicien.